Nous allons parler aujourd'hui de la Bible. La Bible serait le livre le plus acheté, le plus traduit dans le monde, le plus lu. Ça, c'est à voir parce qu'il se pourrait qu'il y ait quand même pas mal de personnes qui aient dans leur bibliothèque une Bible et qui ne l'ont que feuilletée ou même peut-être pas ouverte. Bref, au point de vue édition, la Bible est un grand succès qui ne se dément pas. Alors, quel attrait exerce-t-elle sur le public ? Pour les chrétiens, ça se comprend. Pour ceux qui sont en recherche, ça s'explique, mais aussi tous les gens qui l'achètent ne sont pas obligatoirement ni en recherche ni des chrétiens. Ils ne cherchent pas à approfondir leur foi puisqu'ils n'ont pas peut-être encore la foi. Alors les non-croyants aussi donc sont sur les rangs, mais pourquoi l'achètent-ils ? Par curiosité ? Pour leur culture ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il y a un besoin qui est très, très clair, très exprimé de spiritualité. Je pense que le public a besoin de livres qui soient des livres sacrés, qui soient des livres qui les conduisent dans une démarche spirituelle, des livres qui les encouragent, qui les guident, qui leur permettent de, en quelque sorte, de trouver des réponses à ce qu'ils cherchent ou simplement de se rassurer.
Se rassurer, oui. Donc, parce qu'ils ont quand même un point d'interrogation, une certaine angoisse, peut-être, pour leur avenir.
L'angoisse de la mort.
Oui.
L'angoisse de la confrontation avec Dieu. L'angoisse de manquer de quelque chose. L'angoisse de la maladie. L'angoisse de, finalement, de quand on se compare avec des religions, on dit, ben voilà, moi j'ai telle religion, je suis vaguement croyant, mais j'ai vu un tel qui a une religion plus dure, plus exigeante, et donc, qui sait si jamais il avait raison.
Oui, c'est un peu un pari, hein, comme disait Pascal. Et donc, en fait, aussi, ça pourrait être aussi l'intérêt pour l'histoire d'un peuple, parce qu'on va le voir au cours de notre entretien, la Bible, en fait, est l'histoire d'un peuple.
L'histoire du peuple d'Israël.
Du peuple d'Israël. Et donc, ça complique un peu les choses, cette intervention, donc, d'histoire d'un peuple.
Oui, surtout quand on est assez ignorant de l'histoire d'Israël, ce qui est le cas, à mon sens, de la plupart des gens en France.
Oui, je crois, et même de certaines personnes qui ont une religion, comme on dit, effectivement, ils peuvent ne pas avoir très bien saisi le poids et l'importance non, du peuple juif. Alors, pour que ce soit peut-être plus clair, effectivement, il faudrait peut-être présenter d'abord l'ouvrage. Dans la Bible, c'est un gros livre, effectivement.
Un gros livre.
Un gros livre, mais à l'intérieur, il y a plusieurs livres. Alors, comment ce découpage s'est fait-il ? Alors, en fait, il y a deux grandes parties déjà. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je suppose que vous avez précisé que le mot « testament » ne veut pas dire ce qu'on pense tout de suite et tout ce qui vient à l'esprit des auditeurs. Hein.
La Bible, c'est une expression qui vient du grec « ta biblia », qui veut dire littéralement « les livres ». Et le grec, c'est cette langue du bassin méditerranéen et qui vient avec la victoire d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui est une langue de culture, une langue vraiment utilisée dans la culture pendant l'ère chrétienne, et à tel point que les écrits du Nouveau Testament sont écrits en grec pour la plupart, et que cette expression « ta biblia » est une expression commune et qui va désigner ces livres. Effectivement, il y a deux grandes parties à la Bible. L'Ancien Testament, ou bien la Bible des Juifs, cette Bible qui est donc un ensemble d'écrits ou de livres juifs, hébreux, en langue hébreu, et de la religion judaïque, il y en a 39. Ces 39 livres sont, on pourrait dire de manière assez sommaire, découpés en trois parties. Il y a la Torah, avec le mot hébreu, ou bien le Pentateuque, hein, c'est le nom qu'on donne aux cinq premiers livres de la Bible, qui ont été écrits par Moïse. Le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc cinq livres, Pentateuque, Penta, ça veut dire cinq en grec, et Teukos, c'est un étui. Et donc il y a cinq étuis dans lesquels cinq valises, cinq boîtes dans lesquelles on mettait les rouleaux. Et donc le Pentateuque, c'est la révélation de Dieu par Moïse à Israël. Et pour Israël, c'est vraiment les les écrits qu'il faut lire. Et par exemple, le Pentateuque est découpé en 54 passages ou paragraphes, paracha en hébreu, ces passages étant des passages qui sont lus à la synagogue le sabbat, le Shabbat. Autrement dit, alors vous allez me dire peut-être, oui mais pourquoi 54? Parce qu'il n'y a que 52 semaines. C'est que la date de Pâques, qui dans le calendrier religieux hébreu correspond à la nouvelle année, la date de Pâques est une date mobile, parce qu'elle correspond, si je me souviens bien, peut-être que vous le confirmerez ou au contraire, elle correspond au premier sabbat après l'équinoxe de printemps.
Oui.
Et alors, cette date, l'équinoxe ne tombe pas toujours au même moment, parce que justement l'année est une année non pas lunaire mais solaire, qui est sur le rythme du soleil, et donc les correspondances avec les mois ne sont pas régulières. Ce qui fait que Pâques se situe en mars-avril, et donc suivant comment l'année aura été, courte ou longue, alors il y a 51, 52, ou bien 53 ou 54 sabbats dans l'année, et ce qui fait qu'on prend soin de lire la Torah ou le Pentateuque dans l'ensemble de l'année en le lisant chaque sabbat. Alors voilà pour le Pentateuque, la Torah,
oui.
Est la première grande partie de la Bible.
La deuxième,
c'est donc ce que les Juifs appellent les prophètes. Et le prophète, c'est celui qui rapporte la parole de Dieu. C'est un peu le porte-parole de Dieu. Et le prophète, c'est... les livres prophétiques sont Josué, Juge, 1 de Samuel, 1 de Rois, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. Et puis les 12 petits prophètes aussi qui sont à la fin de la Bible, qui sont ceux qui, au début de l'histoire du peuple d'Israël en tant que nation, avec sous Josué quand il traverse le désert pour quand il rentre en Canaan, hein, quand il sort du désert pour rentrer en Canaan, jusqu'à la fin de la royauté et le retour d'exil après cette période de 70 ans pendant laquelle le peuple d'Israël est à Babylone, dans le pays des Chaldéens, dans l'Irak actuel, eh bien, pendant toute cette grande période qui couvre à peu près entre 1450 et environ 550, si vous voulez, 530 même. Donc une grande période, eh bien, il y a une parole prophétique, ces gens-là, qui rappellent la parole de Dieu, donc la Torah, au peuple. C'est ça, les livres prophétiques. Et puis, il y a une troisième partie, ce sont les livres historiques. Alors, c'est quelque chose encore un peu différent. Les livres historiques sont des livres qui vont raconter, finalement, qu'est-ce que le peuple va faire de tout cela et comment est-ce qu'il réagit. Par exemple, dans les livres historiques, il y a trois grandes parties. Il y a ce qu'on appelle les cinq rouleaux, qui sont... Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation de Jérémie, Ecclésiaste et Esther. Les cinq rouleaux, les Mégillotes en hébreu, ce sont cinq petits livres, puisque ce sont des livres assez petits, qui sont lus à l'occasion des grandes fêtes dans l'année. Et le Cantique des Cantiques est lu à la fête de la Pâque, Pessa en hébreu. Le deuxième, donc le livre de Ruth, est lu à la fête des premières récoltes, ce qu'on appelle la fête des semaines, qui est la Pentecôte, hein, en fait, la fête de la Pentecôte, qui est 49 jours, 7 semaines après Pâques. Hein, nos fêtes chrétiennes ont une origine hébreu.
Oui, c'est calqué sur la civilisation
hébreu, oui.
Oui.
Ensuite, il y a une troisième lecture avec le livre des Lamentations de Jérémie, et qui se fait, comme d'ailleurs le propose le livre des Lamentations de Jérémie, à la date de la destruction du temple par Nebuchadnezzar, donc au cinquième mois, parce que Nebuchadnezzar l'avait détruit donc en 588 sous le règne du roi Sédécias, et il y avait une lamentation qui s'était faite à la suite de la lamentation de Jérémie,
oui.
Et régulièrement il se lamentait au cinquième mois. On trouve cette précision dans le livre de Zacharie. Et puis, donc, le quatrième livre qui est lu, c'est ce qu'on appelle la fête des cabanes ou des tabernacles, qui se faisait le septième mois. Et là, on va lire ce livre de l'Ecclésiaste comme pour avoir un peu de recul sur les choses, avec le recul justement de l'Ecclésiaste, livre qui a été écrit par Salomon. Et puis le dernier livre est le livre d'Esther, et qui se lit juste avant le Nouvel An, à la fête de Pourim, en l'honneur, en souvenir de ce pour, de ce sort qui avait été jeté donc, contre et pour le peuple d'Israël, contre parce qu'il était question de le détruire, et pour car il a été question de le sauver, sous le règne de ce roi Artaxerxès. Et donc voilà cinq livres qui parlent un peu qui sont des livres liturgiques.
Voilà, c'est la liturgie en fait. D'après ce que vous venez de dire, c'est ça. C'est les textes qui sont prévus pour le déroulement des cérémonies de la liturgie.
Exactement.
Des Juifs, entre autres.
Et on pourrait dire qu'au Cantique des Cantiques, la bien-aimée a du mal à rencontrer le bien-aimé.
Oui.
C'est l'histoire d'Israël et de Dieu.
Oui, oui.
À la fête des semaines à la Pentecôte, ça marche. Hein, la bien-aimée qui est Ruth va rencontrer le bien-aimé qui est Boaz. Et elle sera allée au pays de Moab avec la famine, avec le veuvage, etc. Mais finalement, elle trouve quand même Boaz et il se marie avec elle. Et elle aura David comme petit-fils, je crois, ou arrière-petit-fils, je ne me souviens plus. Et finalement, donnera la filiation du Messie avec David. Mais dans un sens, une fois qu'Israël a rencontré Dieu, alors il y a quelque chose de douloureux, c'est qu'ils ne sont pas fidèles et il y a des envahisseurs, dont Nebuchadnezzar, le temple détruit. Alors il y a les lamentations, donc au cinquième mois. Au septième mois, finalement, on se retrouve quand même dans une perspective future, certainement, ce qu'Israël vivra avec Dieu. Et alors il y aura, au septième mois, quand le Messie reviendra, cette fête des tabernacles, autrement dit, ce souvenir de toutes ces galères d'Israël, quand Israël a été dans le désert, il a vécu quantité de choses très difficiles, et notamment dans toute l'histoire, tout ce qu'on peut savoir d'Israël aujourd'hui, et ce cinquième livre, le livre d'Esther, à la fin de l'année, qui montre la providence de Dieu, comme
la conclusion heureuse
dans le livre d'Esther. Voilà. Et donc, je vais juste finir quand même avec ces livres. On a parlé de livres dans cette troisième section,
hein,
pour pas qu'on soit trop perdu. Hein, on a parlé de livres liturgiques. Il y a des livres historiques avec le livre de Daniel, le livre d'Esdras et Néhémie, et 1 et 2 chroniques qui racontent aussi ce qui s'est passé au retour de captivité. Et puis, il y a des livres de sagesse avec les psaumes, livres de, finalement, les chants de souffrance et d'espérance du peuple, avec le livre de Job qui est le chant de souffrance et d'espérance d'une personne, qui est Job, et qui n'est pas un juif, et puis avec le livre des Proverbes écrit par Salomon, en majorité, puisqu'il y a quelques passages qui ne sont pas de lui, et qui sont aussi des paroles de grande sagesse et qui permettent, dans un sens, d'échapper à la souffrance.
Alors, si j'ai bien compris, nous avons vu que l'Ancien Testament, c'était plusieurs livres, effectivement, mais divisés d'une façon bien précise, qui correspondent d'une part à l'histoire du peuple juif, et puis aussi, c'est un livre qui sert de base à la liturgie, avec des textes de sagesse, des textes pour prier, et ainsi de suite. Mais en fait, dans votre développement, j'ai été un peu surpris parce que vos livres, vous les avez présentés pas tout à fait dans l'ordre de la table des matières que l'on trouve dans toutes les Bibles.
Alors, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai et c'est pas vrai pour quelques Bibles. Par exemple, pour la Bible qui est appelée la Bible en français courant ou la Bible qui est appelée traduction œcuménique de la Bible, alors ces Bibles-là ont un ordre différent. Et ont un ordre qui est l'ordre que je propose maintenant. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? On va essayer de préciser les choses courtement. Dans un sens, dans l'ordre classique de nos Bibles, il y a un peu un ordre historique qui va faire qu'on va aller du livre le plus ancien au livre le plus récent. Le plus ancien, c'est la Genèse. Le plus récent, c'est Malachie. Parce que Malachie a été écrit environ vers 420, on pense. Et cet ordre-là est un ordre qui a été posé à la demande de Ptolémée Philadelphe, qui était un souverain pharaon, un souverain d'Égypte, un descendant de la lignée des Ptolémées, avec Ptolémée Lagos, qui était un des généraux en chef d'Alexandre le Grand, et qui a partagé, à la mort d'Alexandre le Grand, son empire a été partagé. Et donc Ptolémée a demandé qu'on traduise les écrits sacrés, les écrits hébreux de la Bible, en grec, parce que la langue hébraïque était une langue finalement qui n'était pas parlée, qui se perdait, d'une part, et d'autre part parce que la culture grecque était en quelque sorte très intéressée par les livres sacrés et il voulait conserver ceci pour la culture. Et donc là, voilà l'ordre des traductions qui ont été faites à la demande de Ptolémée Philadelphe. Cette Bible s'appelant, je le dis, ça peut intéresser des personnes, la Bible d'Alexandrie, ou bien l'ancienne version grecque, ou bien la Septante. Et quand on parle de Septante, voilà, on sait que c'est cette version grecque et qui a été beaucoup utilisée parce qu'elle nous permettait notamment de connaître le sens des mots hébreux dont le sens avait été perdu. Donc c'était quand même assez commode.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, la tradition hébraïque, elle, a conservé ses écrits en hébreu et de manière très rigoureuse et précieuse. On en a même trouvé au manuscrit La Mer Morte, dans ses découvertes en 1948, 49, 47. Voilà. Et alors, l'ordre des Bibles hébraïques, j'ai par exemple dans mon bureau la Bible du Rabbinat, et qui est une Bible où il y a ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Et dans la Bible du Rabbinat, effectivement, l'ordre est différent. Oui. Et je pense que il faut insister sur le fait que les Juifs disent que le cœur de cette Bible, c'est la Torah, les cinq premiers livres, et que les prophètes ont été ceux qui ont apporté au peuple la Torah, mais avec l'échec qu'on connaît, puisqu'Israël, finalement, n'a plus de roi à partir de Sédécias, en 588 avant Jésus-Christ, et quand leur roi, Jésus, est venu, alors il a été rejeté et crucifié, comme on le sait. Et Israël est à nouveau une nation, mais Israël est une nation qui attend son Messie qui doit venir. Et donc on peut dire que les écrits, donc la Torah, les écrits et les écrits, les trois grandes parties, on peut dire que les prophètes rappellent au peuple qu'ils doivent entendre la Torah et les écrits constatent qu'ils ne l'entendent pas. Alors ça, c'est l'ordre juif. L'ordre des Bibles que nous avons, et la Bible que je tiens dans la main, est une Bible qui n'a pas l'ordre juif, est un ordre différent.
C'est la plus fréquente, quand même.
C'est la plus fréquente. C'est un ordre plutôt historique, et dans lequel, finalement, l'importance qu'on donne au livre de la Bible est différente, et m'interpelle moins. C'est pour ça que je suis plutôt d'avis à parler de l'ordre des Bibles juives.
Oui, alors l'impression que l'on a, c'est qu'en fait, l'Ancien Testament est réservé aux Juifs.
Eh bien, c'est une bonne impression.
Merci.
C'est une bonne impression parce que c'est vrai qu'il parle exclusivement du peuple juif, mais ce n'est pas une bonne impression dans la mesure où le but de Dieu, en bénissant le peuple juif, c'est de bénir l'ensemble des nations. Et ça vient dès le livre de la Genèse, au chapitre 12 et au verset 3, Dieu dit à Abraham, par toi, par ta semence, par tes descendants, je vais bénir toutes les nations de la terre. Et on peut dire qu'Israël est appelé à être ce peuple si particulier, avec une destinée si particulière, pour que Dieu bénisse les nations, l'ensemble des pays. Hein, il y en a environ 190, je crois, actuellement.
Hein, 80, oui, 190,
à peu près, oui. Voilà. Et donc, que Dieu bénisse les nations par Israël. Ce moment, qui est appelé le royaume, le règne de 1000 ans, dont il est question dans Apocalypse, au chapitre 20, sera ce moment où Dieu bénira complètement les nations par Israël. Dieu habitera en Israël, Dieu sera dans le temple, il y aura sa gloire, et le Messie sera également en Israël, et il sera le roi de ceux qui règnent, le roi des rois, et donc il y aura une véritable bénédiction de ce point de vue-là.
Alors, on va continuer sur l'Ancien Testament, parce que j'ai quelques questions à vous poser. Une question bêtement matérielle, donc il y a plusieurs livres, chaque livre est divisé en chapitres, et puis chaque chapitre est divisé en versets.
Oui.
Donc c'est très... On retrouve dans, quelle que soit l'édition, on trouve dans les mêmes chapitres et les mêmes versets, et ça permet évidemment donc de retrouver les citations effectivement dans la Bible.
Oui, et c'est assez intéressant de souligner que cette division en chapitres et en versets est une division relativement récente, puisque la division en chapitres date du XIIIe siècle, on ne sait pas exactement qui est-ce qui l'a faite et où, mais par contre la division en versets, c'est un imprimeur à Paris, Robert Estienne, qui l'a faite. Et on comprend que quand on voit le... c'est sûr qu'une Bible reliée aujourd'hui est plus petite qu'une Bible reliée à l'époque...
Oui, bien sûr.
On est en 1550 avec Robert Estienne.
C'était des gros registres.
Au XVIe siècle. Mais aujourd'hui, si on se disait on va lire un texte à peu près au milieu de la Bible et personne ne pourrait retrouver ce texte facilement. Et donc la division en chapitres en versets est une division qui est très intéressante, mais il faut que le lecteur fasse attention, parce que c'est quand même une division arbitraire. C'est pas Dieu qui a dit il faut arrêter le chapitre ici
non,
et mettre des versets là.
Oui, mais disons, ce qui est surprenant, c'est que, bon, le chapitre on comprend, mais disons la division en versets, c'est que ça ne correspond pas à une phrase. Le verset, par exemple, 14, prend la moitié d'une phrase et va s'arrêter à un point ou pas.
C'est vrai. Et je pense que quelquefois, par souci de clarté, la phrase étant un peu longue, on a coupé en deux, ça aurait fait des versets trop longs pour s'y retrouver. Il y a certainement une volonté de la part de ceux qui ont organisé cela, de rendre les choses simples. Peut-être qu'ils ne l'ont pas toujours fait. Et il faut remarquer qu'il y a des décalages, soit de chapitres, soit de versets, en fonction de certaines traductions. Et oui. Donc là, dans l'Église, dans la communauté, dans la congrégation, il est préférable d'avoir une Bible qui soit la même pour tous, pour qu'on puisse se retrouver assez facilement.
Oui, alors, vous avez parlé de Moïse, vous avez parlé de Salomon, comme auteur de certains livres, mais qui est vraiment l'auteur de la Bible ? Est-ce qu'on est sûr que c'est Moïse ? Est-ce qu'on est sûr que c'est Salomon qui a écrit ? Est-ce qu'on est sûr que c'est David qui a écrit ? Isaïe, par exemple, qui est un livre relativement important, on a vraiment l'impression qu'il y a plusieurs Isaïe.
Là, dans la Bible, il y a des éléments qui sont tout à fait clairs et qui sont explicites. Où on voit, par exemple, que Moïse a écrit ses paroles. Et même l'Éternel lui dit « consigne ces paroles que je te donne ». On voit par exemple que dans le livre de Jérémie, c'est Baruch qui écrit pour Jérémie.
Oui.
On voit que dans certaines lettres de Paul, ce n'est pas Paul qui écrit la plupart du temps, mais une fois, je crois que c'est dans l'Épître aux Galates, il dit « c'est moi qui ai écrit ». Et même comme apparemment il n'y voyait pas bien, il a écrit avec des grosses lettres. Hein, il finit sa lettre aux Galates en disant « voyez, avec quelles grosses lettres, gros caractères, je vous ai écrit ».
Mais oui, mais il dictait alors quand même, Paul.
Alors, dans cette lettre aux Galates, il semble bien que c'est lui
qui a écrit. Oui, mais les autres les épîtres.
Voilà, dans d'autres lettres, je crois la lettre aux Romains, par exemple, on voit que Paul a fait écrire la lettre aux Romains par quelqu'un. Je vais le dire de mémoire, c'est peut-être Tertius ou quelqu'un comme ça. Et voilà, oui c'est ça, Tertius, Romains 16, verset 22. Donc, alors, qui est l'auteur de ces lettres ? Pour moi, quand la Bible dit que Moïse a écrit le Pentateuque, je le prends comme ça. Mais comme quand, dans la fin du Deutéronome, la mort de Moïse est racontée,
où il n'a pas pu la
il est évident que ce n'est pas lui qui l'a écrite, sa mort ou décrite, et donc je pense que c'est quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas très gêné par le fait de connaître ou pas exactement qui est l'auteur. Ce qui me semble, c'est que l'important, c'est est-ce que Dieu veut nous parler ou pas. Et si Dieu existe, si Dieu est ce souverain, si Dieu est si important, alors il nous parle et on l'écoute. Et il faudra que je dise mon sentiment, que je témoigne du pourquoi est-ce que je crois que la Bible est parole de Dieu.
Alors, ce que vous venez de dire sur les auteurs de la Bible m'intéresse beaucoup, parce qu'effectivement, depuis longtemps, je pensais que malgré des dénominations, je reviens à Moïse, Salomon, David, et ainsi de suite, vous pensez qu'effectivement, ça pouvait être à certains moments, disons donc des disciples, des gens qui étaient là, qui effectivement, soit qui le prenaient sous la dictée, soit qui connaissaient bien son esprit, ce qu'il voulait dire, pour écrire donc ses écrits. Mais disons... Au point de vue pratique, au point de vue historique, on dit que Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi gravées dans la pierre.
Du doigt de Dieu.
Du doigt de Dieu. Oui, alors du doigt de Dieu, je pense que c'est l'esprit de Dieu qui a inspiré le texte. Mais ça me gêne un petit peu. Vous croyez qu'il a pu donc se faire comme ça, Moïse, laisser faire le doigt de Dieu écrire sur la pierre justement ces textes, ou tout simplement c'est une image qui veut montrer l'importance, le poids de ce texte, et qui pourrait tout simplement avoir été écrit par Moïse, inspiré par Dieu.
Personnellement, j'ai pas de mal à croire que Dieu qui nous a créés, vous et moi, de son doigt, de sa main puissante, souveraine, avec autant de choses extraordinaires que le visage, les yeux et quantité de choses extraordinaires qu'il ait écrit des tables de la loi. La Bible dit qu'il a écrit de ses doigts, de son doigt sur les tables de pierre. Personnellement, je le reçois comme tel et je serais intéressé, quand on le rencontrera, qu'il nous en parle un peu.
Oui.
Vous voyez, j'ai une attitude un peu d'enfant à cet égard.
Je crois que c'est ce qu'il faut avoir.
Voilà, j'entends ce qui est dit et ça me suffit. Parce que justement, pour moi, j'ai besoin d'entendre ce que Dieu dit. Je n'ai pas besoin d'entendre une argumentation particulière. Je n'ai pas besoin qu'on me dise vraiment, qu'on comprenne que c'est comme ça pour en être rassuré. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Et donc Dieu, voilà, nous dit que il a écrit les 10 tables de la loi. Et puis il y a des livres duquel on ne connaît pas les auteurs, comme l'Épître aux Hébreux,
oui,
par exemple, et d'autres livres desquels les auteurs sont explicitement dits, comme par exemple David, qui est mentionné, je crois, pour 73 psaumes sur 150, ça fait presque 1 sur 2, ce qui est colossal.
Oui, oui, oui.
Et compte tenu de tout ce qu'a fait David en tant que roi, en tant qu'homme de guerre, etc., on peut se dire, mais David n'aura certainement pas eu le temps, et ce sont d'autres personnes qui l'ont écrit à la place de David. Bon, si vous voulez, moi je ne rentre pas trop dans ces discussions, je préfère entendre que David a écrit quelque chose, mais surtout que l'Esprit de Dieu a voulu dire quelque chose, que ce soit cette première grande partie de la Bible avec les 39 livres, ou la deuxième grande partie de la Bible avec les 27 livres, l'Esprit de Dieu a voulu nous donner quelque chose qui est pour notre construction personnelle, pour notre connaissance personnelle, pour qu'on puisse finalement savoir des choses et les comprendre à la fois avec des exemples de vie personnelle, des exemples de vie familiale, des exemples de nations avec Israël et d'autres nations, des exemples de rois, par exemple, c'est tout à fait saisissant de penser que le pharaon Nécho ou le Nebuchadnezzar, l'empereur babylonien, ont changé le nom d'un roi des Juifs parce que son nom n'était pas assez spirituellement valable.
Ah oui,
et oui,
ils ont fait attention à ça.
Pour être tout à fait précis, Néco a changé le nom d'un frère de Josias, qui était donc appelé à lui succéder. Il s'appelait Eliakim, ce qui veut dire quelque chose comme « El, c'est Dieu, Dieu me soutient », et par Yehoyakim, qui veut dire « Yahvé me soutient ». Et Yahvé, c'est le nom de Dieu. Autrement dit, c'est le pharaon d'Égypte qui a dit au roi de Juda comment son Dieu s'appelait. C'est pour vous dire si l'acte du pharaon d'Égypte est un acte de piété envers un roi qui était manifestement un roi impie. Donc tout ça, ça nous parle. Ça nous montre que Dieu ne laisse pas les puissants faire n'importe quoi et qu'il se passe des choses et peut-être beaucoup plus que celles qu'on croit au jour comme en France en 2010. Hein, on peut entendre des grèves, des révoltes à propos des réformes sur les retraites ou autre chose, et en ayant peu d'égards envers ceux qui nous dirigent. Autant on peut voir de la corruption, mais autant on peut savoir que, par ces exemples, que Dieu ne laisse pas tranquilles ceux qui ont de grandes responsabilités sur les États.
Alors, est-ce que je vais faire un raccourci? Vous allez me dire si ça vous convient ou si ça ne vous heurte pas. Je trouve donc qu'avec la Bible, on sait très bien que c'est l'Esprit avec un E majuscule, l'Esprit de Dieu, qui a fait écrire. Mais pour nous, aujourd'hui, ou même pour ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront aussi, l'important, c'est l'Esprit à en tirer avec un E minuscule.
Alors, c'est très bien de faire et important de faire cette distinction. Autrement dit, aujourd'hui, Dieu parle. Et la question, c'est est-ce qu'on écoute? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait beaucoup de Bibles. La Bible est le livre le plus vendu dans le monde, le plus traduit également. Il y a des efforts de traduction qui sont colossaux, même pour atteindre les personnes dans bon nombre de dialectes.
Oui.
Dieu parle. Soit, nous avons en face de nous un texte qui est la parole de Dieu, et peut-être faudra-t-il que nous disions pourquoi est-ce qu'elle est parole de Dieu, pourquoi est-ce que d'autres textes éventuellement ne sont pas parole de Dieu. Mais quand Dieu parle, c'est à nous d'en comprendre quelque chose, et là il y a l'esprit des choses, comme vous le dites. Je crois que quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il est conduit dans la mesure où il souhaite bien se laisser conduire par l'esprit de Dieu, à discerner l'esprit de la parole de Dieu. Et je crois que ce qui est un peu malheureux, c'est que traditionnellement, on a l'habitude de faire confiance à ceux qui parlent. On n'a pas l'habitude de faire confiance au texte. On a plus vite fait de lire des livres, de lire des commentaires de la Bible, de lire les petits feuillets du calendrier dans lesquels il y a un petit texte, plutôt que d'écouter le texte biblique et de se placer devant Dieu et de se dire, bon, qu'est-ce que tu veux que je comprenne aujourd'hui ? Et ça me paraît fondamental. C'est ça que j'entends dans cette expression que vous utilisez, l'esprit.
Oui. Alors, vous dites, bon, je préfère quelqu'un qui va lire lui-même le texte dans la Bible elle-même, et plutôt que des livres, de commentaires, ainsi de suite. Mais si beaucoup de personnes lisent les livres qui traitent de la Bible, c'est parce que souvent c'est beaucoup plus accessible. Parce que c'est pas toujours facile de lire la Bible. De longues énumérations, des versets qui sont difficiles à saisir. C'est ardu quand même.
Je suis tout à fait d'accord.
Mais peut-être là aussi, je vais encore faire un jeu avec l'esprit E majuscule et petit e. Si la Bible a été écrite sous la dictée, disons, de l'esprit avec un E majuscule, il est tout à fait normal et logique que cet esprit-là, l'esprit saint, disons, nous donne l'esprit pour comprendre.
Absolument.
Voilà.
Absolument. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'éducation biblique familiale est rarissime. C'est rarissime.
Surtout dans certains milieux, peut-être chez les réformés, certainement, les évangéliques, oui, mais chez les catholiques, par exemple, ça a tardé, cette éducation de la Bible. C'était l'histoire sainte.
C'est rarissime que dans la famille, on fasse apprécier la Bible, qu'on la mette en avant, qu'on pousse l'adolescent à entendre des choses de la Bible. Et de ce fait, quand quelqu'un commence à lire la Bible à 30 ou 40 ans, alors c'est vrai qu'il a un livre qui est extrêmement compliqué. Si par contre, je prends l'exemple du solfège, si par contre l'enfant est éduqué dans le solfège depuis l'âge de, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, dès qu'il sait lire. Alors quand il a 20 ans, il regarde une partition et rien n'est compliqué pour lui. Alors que
Des chiffres rapidement, bien sûr.
pour un adulte, c'est beaucoup plus compliqué s'il apprend le solfège tard.
Oui. Alors, est-ce que il y a des textes, des manuscrits, des papyrus qui sont donc des originaux sur lesquels on a pu s'appuyer pour éditer ensuite les Bibles telles que nous les avons aujourd'hui?
Actuellement, il n'y a pas, on peut affirmer qu'il n'y a pas de texte original de l'époque, hein, de la Bible. Par exemple, le texte hébreu le plus ancien est sont les textes de la Mer Morte, qu'on fait dater ou qu'on date environ du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et les textes les plus anciens qui nous aient été conservés sont le codex de Léningrad, c'est-à-dire l'ensemble de la Bible, et qui date du 11e siècle. Autrement dit, c'est certain que le codex de Léningrad est un texte qui a été reproduit à partir des textes qui étaient originaux, mais qui finalement se sont abîmés, perdus, ou qui sont enfouis quelque part, peut-être,
On pourra peut-être un jour
hein,
les retrouver.
qu'on pourra peut-être un jour retrouver, tout à fait.
Ou alors c'est la tradition orale aussi qui a transmis, et puis un jour on les a mis par écrit, on leur a donné forme.
C'est possible, j'en suis pas persuadé. Je pense plutôt qu'il y a une tradition écrite, mais que cette tradition a été recopiée avec soin et qu'il y a des textes qui sont tout à fait crédibles. Par exemple, c'est assez facile de voir la différence entre justement le codex de Léningrad, ce texte du XIe siècle, et les manuscrits de la Mer Morte. Et quand on regarde ces différences, on voit qu'il n'y en a pas. On voit qu'il y a une rigueur dans l'activité de ces scribes judaïsants, hébraïsants, qui est tout à fait remarquable.
Alors, vous avez parlé de grec, de l'hébreu, et puis traduite en plusieurs langues, en français, en latin, et ainsi de suite. Toutes ces traductions, tous ces traducteurs qui sont permis d'intervenir, est-ce qu'il n'y a pas des altérations du texte, des erreurs?
Justement, quant au texte en hébreu, c'est saisissant de voir à quel point il n'y en a pas. Par rapport au texte grec, on peut dire qu'il y en a plus. On estime qu'il y a environ 2% du texte, c'est-à-dire pas grand-chose, qui est sujet à discussion. Par exemple, le fait qu'il y ait un et ou qu'il n'y en ait pas, le fait qu'il y ait Dieu à la place de Christ ou Christ à la place de Dieu. Vous voyez,
Oui, oui, oui.
il y a environ 2% du texte. Alors, comment est-ce que ces choses-là sont possibles? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle des leçons, c'est-à-dire qu'on trouve des manuscrits, on trouve une dizaine de manuscrits sur, par exemple, le texte de la lettre aux Romains de Paul, et dans cette dizaine de manuscrits, on va avoir quatre manuscrits qui utilisent tel mot et six qui utilisent tel autre. Et donc, on a un document qui s'appelle un appareil, hein, et qui est l'ensemble du texte biblique, par exemple du Nouveau Testament, qui est en grec, et dans lequel on va avoir toutes les variantes. Alors ce livre-là est un peu compliqué. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque, que j'utilise quelquefois pour chercher à comprendre pourquoi est-ce que ceci a été traduit de telle manière et pas de telle autre manière. Mais c'est très très rare d'avoir recours à ce texte-là.
Donc, vous estimez que c'est crédible.
Ah, pour moi, la Bible est crédible,
Parce que,
oui.
disons, les traducteurs ont été conduits aussi, disons, par l'esprit.
Elle est crédible parce que, d'une part, je pense que Dieu a préservé sa parole, d'autre part, parce que les manuscrits sont connus, ils sont certifiés, on sait dans un sens d'où est-ce qu'ils viennent. Les découvertes de la Mer Morte ont permis de savoir où est-ce qu'on allait. Et par exemple, c'est important de dire que on a une vingtaine d'exemplaires de l'ouvrage La guerre des Gaules, qui a été écrite par César, et on a environ 5 000 manuscrits du Nouveau Testament.
C'est certainement
Donc il y a quand même
important, oui.
une grosse
Et
différence.
l'importance a été reconnue.
Voilà. Mais au-delà de tout ça, je voudrais dire que le plus important, à mon sens, c'est de comprendre pourquoi ce livre-là est parole de Dieu et pas un autre livre. Il me semble que les caractères d'un livre sacré doivent être de ne pas être, laxistes à notre égard, de voir quels sont nos problèmes. Notre problème, me semble-t-il, c'est comment allons-nous nous présenter devant Dieu quand on le verra. Et dans cette perspective-là, tous les livres sacrés parlent de condamnation, parlent de difficulté de l'être à se trouver devant Dieu. Tous les livres sacrés sont le salut des nations collectivement parlant. On peut parler des Upanishads, qui sont les livres sacrés des hindous. On peut parler du Coran, hein, le livre de l'islam, des musulmans. On peut parler du livre de Mormon. Il y a trois livres que les Mormons auraient découverts au début du 19e siècle, qui s'appellent « La perle de grand prix »,« Doctrine et alliance » et « Les livres de Mormons ». Et donc, voilà, on peut parler de ces livres sacrés, mais tous les livres sacrés sont unanimes. Ils condamnent l'homme avec sa faute, son péché. Mais il n'y a qu'un livre qui sauve radicalement l'homme, c'est la Bible, qui raconte dans l'Ancien Testament comment est-ce que Dieu allait sauver son peuple, finalement. Dans le Nouveau Testament, comment il le sauve avec la venue du Messie, avec son rejet, et qui est le salut de l'individu, individuellement parlant, et avec le salut d'Israël en tant que nation qui reviendra sur le devant de la scène, et par qui Dieu bénira toutes les nations.
Nous avons donc parlé, et on a bien développé ce point, c'est-à-dire la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Il faut peut-être aborder maintenant quand même le Nouveau Testament, parce que pour chrétiens, pour nous, c'est aussi essentiel. Alors, c'est la deuxième partie, et là, il y a plusieurs livres aussi qui sont rassemblés. Et on connaît plus facilement peut-être les auteurs.
Le Nouveau Testament succède donc à l'Ancien Testament. Premièrement, qu'est-ce que veut dire testament ? Après, pourquoi nouveau, ancien ? Et après, on parlera des auteurs, si vous voulez. D'abord, testament. Testament est un mot, par exemple en grec, diatheke, un mot qui est plutôt à entendre en tant que disposition que testament. Un testament, chez nous, c'est quand il y a un décès, on a un testament en faveur des héritiers, alors que là, ce sont plutôt des dispositions que Dieu communique à ceux qui veulent bien être ses enfants. Les dispositions de la première partie de la Bible, hein, l'Ancien Testament, ce sont finalement ces dispositions par lesquelles Dieu s'engage à bénir les peuples. Et il s'engage à les bénir par Israël, et il donne deux signes pour cela qu'on trouve dans la Genèse, au chapitre 9. Le premier, c'est l'arc-en-ciel, où il dit « Je ne détruirai plus les peuples ». Et le deuxième, c'est la circoncision pour les Juifs, en mettant à part un peuple qui soit une bénédiction pour les peuples. La fin de la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, est écrite environ en 420 par le prophète Malachi, qui veut dire littéralement « mon messager ». Et il y a donc environ 400 ans de silence jusqu'à la venue de Jésus. Et puis, Jésus vient donc, ce Messie, on peut peut-être penser entre vous et moi comme ça, je ne l'affirme pas, mais je le dis, qu'il vient peut-être au moment où une femme, Marie,
oui,
la Vierge Marie, est vraiment dans ses dispositions remarquables, honorables, pour donner naissance à celui qui allait être le Messie.
Et a dit oui.
Et a dit oui à Dieu. Hein, voilà. Et ça, c'est très beau. Mais peut-être qu'y a-t-il de la part de Dieu d'autres raisons pour qu'il y ait 400 ans de silence, en quelque sorte. Il y a donc de nouvelles dispositions avec ce Nouveau Testament, mais qui sont, à mon sens, non pas un Nouveau Testament comme si quelque chose de nouveau apparaissait, mais plutôt un renouvellement de l'alliance que Dieu a faite avec Noé en Genèse 9 et avec Abraham en Genèse 17, avec Noé, avec tous les peuples, puisque le peuple d'Israël n'existe pas encore, et avec Abraham en Genèse 17, avec le peuple d'Israël, pour bénir l'ensemble des nations. Autrement dit, il y a un renouvellement de l'Alliance, autrement dit, par le Messie, toutes les nations seront bénies.
Jusqu'à maintenant, depuis le début de notre entretien, on n'a effectivement peut-être pas assez parlé de cette alliance, que la Bible est le livre aussi de l'alliance. Ce n'est pas uniquement un livre de liturgie, ce n'est pas uniquement un livre de l'histoire du peuple juif. Il faut comprendre que dans l'histoire du peuple juif, il y a aussi Dieu et l'alliance avec son peuple.
Exactement. Et d'ailleurs, testament est à prendre dans le sens de l'alliance, où l'alliance est justement renouvelée. Et on peut dire qu'il y a une alliance collective faite avec Israël, et une alliance individuelle faite avec Jésus, le Sauveur. Autrement dit, l'alliance est, de manière générale, l'alliance que Dieu fait avec les nations et avec Israël. Mais quand le roi est rejeté, alors Dieu donne à l'individu la possibilité de devenir un enfant de Dieu par le rejet du roi, par la mort du Messie, par la mort de Jésus, par la mort de Dieu fait homme. Et donc, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, c'est cette réaffirmation de la grâce de Dieu, grâce qui avait voulu être montrée du point de vue collectif par le peuple d'Israël au peuple sur la terre, mais grâce qui est montrée d'un point de vue individuel après, dans ce renouvellement de l'Alliance, donc dans le Nouveau Testament. Alors là, on a parlé de testament, on a parlé de nouveau,
oui.
Et maintenant, on va donc parler d'auteur.
Voilà, oui.
On voit que l'ensemble des livres bibliques, donc de la Genèse à l'Apocalypse, est écrit dans une période d'environ 16 siècles, puisque d'après une datation biblique toute simple, qu'on retrouve par exemple en 1 Roi 6, au verset 1er, on voit que la sortie d'Égypte des fils d'Israël s'est faite 480 ans avant la dédicace du temple de Salomon.
Mmh.
Autrement dit, Salomon ayant existé vers 950-970, ça montre bien que Moïse a existé environ 500 ans avant, c'est-à-dire vers 1400. Alors, et puis ce fait-là est attesté par d'autres passages bibliques, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, Jean est celui qui a terminé l'ensemble de la Révélation, avec justement le livre qui s'appelle Révélation, l'Apocalypse.
L'Apocalypse, oui.
Et ce Jean a fait ses écrits à la fin du 1er siècle, on estime vers 98 de notre ère. Et donc, la Bible a été écrite sur 16 siècles par une quarantaine d'auteurs différents. Et il y a des livres dont les auteurs ne sont pas connus. Les auteurs du Nouveau Testament, alors, on sait que Matthieu a écrit en hébreu, dans leur langue, l'évangile, et il s'est attesté par exemple par saint Irénée, qu'il écrit dans son livre Contre les hérésies. On sait aussi que Marc était le secrétaire de Pierre, que Luc était le secrétaire de Paul, et qu'ils ont écrit les évangiles, semble-t-il, après la mort de Pierre et de Paul, pour consigner garder. Quelque chose, pour oui. garder quelque chose. Et puis Jean donc, l'aurait écrit à la fin de sa vie. Il était donc en exil à Patmos. Et puis, donc, on sait que Paul a écrit 13 lettres. On sait que la lettre aux Hébreux n'a pas d'auteur attesté, ni même par la tradition des pères. Donc, on peut supposer des choses, mais on ne le sait pas.
Et alors, pourquoi on la met avec les épîtres de Paul, alors qu'on était sûr qu'elle ne soit pas de Paul ?
Alors, certaines Bibles la mettent au rang des épîtres de Paul, mais pas toutes.
Ah, pas toutes, oui.
Pas toutes, non, non. Voilà, alors ça dépend un peu des points de vue des traducteurs ou de ceux qui veulent introduire la Bible. Les Actes des Apôtres ont été écrits par Luc, ça c'est su. Et puis après, donc, il y a ces lettres de Jacques, qui était un frère de Jésus. Les noms des frères de Jésus étant consignés dans l'évangile de Matthieu, par exemple. Il y en a quatre. Ensuite, il y a les lettres de Pierre, les lettres de Jean et les lettres de Jude, avec l'Apocalypse de Jean qui clôt le canon. Paul s'appelle lui-même comme celui dont le ministère est de compléter les Écritures. C'est ce qu'il dit dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 25. Voilà pour les auteurs.
Oui, alors on peut imaginer, donc, au sujet de ces auteurs, que Luc, Marc, ainsi de suite, ont vécu dans l'entourage des apôtres, qui avaient été des témoins oculaires, effectivement, et qui avaient vu Jésus et qui avaient entendu ce qu'il disait, qui ont rassemblé dans leurs souvenirs tout ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils déclaraient lorsqu'ils faisaient des sermons, et puis ensuite ils l'ont regroupé donc, dans ce qu'on appelle l'évangile de Luc, l'évangile de Marc, et ainsi de suite.
Alors, il y a des témoins oculaires et des témoins qui ne sont pas oculaires.
Oui.
Par exemple, il semble bien que Luc ait fait une enquête administrative très rigoureuse, et il commence son évangile en s'adressant à quelqu'un qui est peut-être un puissant, on pourrait dire un politique, hein, qu'il appelle Théophile, et il lui dit « Plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous. » Donc il pense peut-être à Marc, le secrétaire de Paul, et à Matthieu. Matthieu était un témoin oculaire, puisqu'il était un des disciples.
Oui, mais bien
Luc,
sûr.
Luc ne se place pas parmi les témoins oculaires. Hein, il dit « Plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous, avec une pleine certitude comme nous les ont transmises, ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole. » Mais il dit « Il m'a semblé bon à moi aussi, qui ai suivi exactement toute chose depuis le commencement. » Mais Luc n'est pas un juif, et c'est quelqu'un qui a plutôt été certainement instruit par Paul, des choses qui devaient être gardées.
Oui, puis Luc était quand même un médecin, donc c'est quelqu'un qui était cultivé, qui avait une éducation.
Voilà,
donc ça
fait.
Lui a permis évidemment peut-être de rédiger l'évangile et les actes des apôtres. Donc ils ont raconté la vie du Christ, disons, la vie c'était peut-être important, mais ce n'était pas l'essentiel, c'est surtout évidemment son message.
Voilà.
Et donc ensuite, ça a été le développement de Paul qui a était la base peut-être de la doctrine chrétienne.
Oui, c'est important de faire cette différence. Les évangiles racontent la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et il ne faut pas oublier que Christ veut dire choisi. Choisi pourquoi ? Choisi pour être
le sauveur,
le roi.
Le roi.
Le roi. Autrement dit, il ne faut pas forcément voir dans les évangiles l'évangile du salut. Et là, il faudra bien que vous me disiez si je me fais comprendre, mais il faut plutôt y voir l'évangile du royaume. Et cet évangile du royaume que Jésus prêche, par exemple, en Matthieu 4, 23, Jésus commença à prêcher l'évangile du royaume. C'est quoi l'évangile du royaume ? C'est la bonne nouvelle du royaume. Et donc...
De notre avenir à
collectif,
venir.
Collectif, les nations.
Oui, oui.
Hein, voilà. Et donc, la bonne nouvelle sera quand Dieu habitera en Israël et qu'il y aura le Messie qui régnera. Et là, toutes les nations sauront comment gouverner de manière excellente.
Donc, le retour du Christ.
Le retour du Christ.
Mais le salut, c'est évidemment son salut personnel, chacun.
Personnel, individuel.
Individuel.
Et donc, les évangiles racontent, et surtout les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, racontent l'évangile du royaume. Par contre, l'évangile de Jean, qui vient bien après, et il semble bien que Matthieu, Marc et Luc aient été composés avant la destruction de Jérusalem.
Mmh.
Autrement dit, Israël reste encore une nation. Hein, bien sûr, Israël n'a pas de roi et attend un peu son roi, mais Israël reste une nation, tandis qu'après la destruction de Jérusalem par Titus, général en chef de Vespasien, l'empereur, et la destruction du temple, alors l'avenir d'Israël est vraiment plus qu'incertain, et Jean parle beaucoup plus des rencontres de Jésus avec les personnes, et parle de vie éternelle, et parle d'évangile, du salut. Jean 20, verset 31, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que vous ayez la vie éternelle par son nom. Hein, voilà donc la différence de l'évangile de Jean avec les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc.
Oui, et disons, il y a quand même un lien important entre l'Ancien Testament, effectivement, et le Nouveau Testament. Parce que, par exemple, c'est un livre prophétique qui annonce le Christ.
Voilà, l'Ancien Testament annonce la venue de Christ.
La venue du Christ,
oui, tout à fait.
Hein, c'est ça. Donc, on peut même donner quelques exemples. Donc, ils sont assez nombreux. Disons, juste après la naissance, la fuite en Égypte, hein,
oui,
qui est un fait, eh bien, est annoncé par Osée 11.1, mais ensuite, évidemment, en Matthieu, qui en parle, effectivement, de 14.15.
Hein. Voilà, avec cette expression, j'ai appelé mon fils, hors d'Égypte.
Voilà. Alors, on peut ensuite, disons, pour les souffrances du Christ, je passe parce qu'il y en a beaucoup de références de ce genre-là. Bon, abandonner des siens, c'est Zacharie en 13:7 qui en parle déjà, qui le signale, et c'est Matthieu 26:31-56 qui raconte comment ça s'est passé.
Absolument.
Et donc, chaque fois, il y a quand même des prophéties qui concernent Jésus. Et donc, on le trouve dans l'Ancien Testament, c'est annoncé, et puis dans le Nouveau Testament, on dit ça y est, ça s'est produit.
On en a référencé plus de 300.
Oui, alors je ne vais pas les lire toutes. Et effectivement, donc ça c'est, disons, donc, l'esprit donc,
du Nouveau Testament.
Du Nouveau Testament.
Les évangiles parlant de la vie du Christ choisi pour régner, mais à la Pentecôte il se passe quelque chose d'essentiel. C'est d'une part...
Et ça on le trouve dans les Actes.
Dans les Actes, hein, au chapitre 2, c'est d'une part l'Esprit de Dieu qui vient sur les chrétiens pour les unir en un, hein, avec ceux qu'ils ont en commun qui leur permet de marcher ensemble, l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu se manifeste sous forme de langues de feu, et ces langues de feu sont une manifestation pour les juifs incrédules, pour les juifs qui résistent toujours et qui ont crucifié le Christ, le choisi, et qui sont finalement la démonstration de Dieu que maintenant il s'adresse plus seulement uniquement à Israël, mais aussi aux nations.
Aux nations, les nations, donc, les langues de tous les pays.
Sont des langues de jugement à l'égard d'Israël. C'est ce qu'on trouve concernant le parler en langue, mais ça c'est un autre sujet.
Oui, et disons, en fait, les Juifs s'arrêtent donc, n'acceptent pas, pour aller plus simple, le Nouveau Testament.
Ils ne l'acceptent pas parce que pour eux, le Christ n'est pas revenu.
N'est pas revenu, ils l'attendent donc encore. Et alors, ils considèrent Jésus comment ?
Comme un imposteur.
Comme un imposteur, carrément. Même pas comme un prophète.
Et d'ailleurs, celui qui a été discipliné, jugé et mis à mort à cause de son imposture. Puisque réclamant fils de Dieu, il se faisait Dieu.
Au roi de Juif, oui, effectivement, aussi, oui, oui, oui. Donc, ils attendent toujours, disons, le retour du Christ.
Oui.
Alors, pour nous, c'est relativement important, nous, chrétiens. Et est-ce qu'il y a, disons, peut-être une approche particulière de la Bible ? Pourquoi chercher ? Parce qu'on a dit au départ qu'il fallait trouver un sens dans sa vie, que c'était un livre qui nous permet de connaître la parole de Dieu. Pourquoi ? C'est aussi important.
Dans la Bible, je prends connaissance de qui est Dieu.
Oui.
Et j'en prends connaissance de différentes manières. Par exemple, Dieu est amour. La Bible me montre comment est-ce que Dieu est amour. La Bible me montre dans la Genèse que Dieu nous place dans quelque chose de fantastique. Cette terre atmosphérisée avec l'atmosphère qui est un lieu de délices. Éden veut dire délices. Avec ces arbres qui produisent des fruits fantastiques. Hein, là, on est dans la période des raisins, des châtaignes. c'est très, très agréable. Et c'est toujours renouvelé avec des choses différentes et tellement variées et tellement bonnes. Alors, j'entends que Dieu est amour. Par exemple, Dieu veut qu'on soit les uns avec les autres. Et quand on est les uns avec les autres, on est bien. Quand on se respecte, quand on construit ensemble, quand on fait des choses. Et ça nous parle de l'amour de Dieu. Mais la Bible nous montre aussi que Dieu est souverain. Autrement dit, que rien ne peut se passer sans que Dieu ne le permette. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'important. La Bible nous parle de la souveraineté de Dieu en tant que fait absolu. Autrement dit, tout ce qui arrive est dans la main de Dieu et donc a un sens. Si vraiment on en tenait compte, alors il y aurait beaucoup de raisons pour ne pas être malheureux. Par exemple, souvent les gens regrettent leur passé, les gens se lamentent sur leur présent en disant « mais ceci et cela ne devrait pas arriver » ou les gens craignent le futur. Alors que si on constate que Dieu est souverain, si on le croit et qu'on l'intègre dans notre regard sur la vie, alors les choses sont radicalement différentes. La Bible me parle de Dieu. Dieu est juste. Dieu a montré sa justice en condamnant le péché sur qui ? Sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté nos fautes. Et donc Dieu est juste, Dieu ne transige pas avec la faute. Et donc c'est à moi de trouver comment Dieu me permet de sortir de ma propre faute. Et il me permet d'en sortir en réalisant que Jésus a pleinement porté mes fautes. Voilà un regard
sur Dieu. Ça c'est essentiel.
C'est essentiel. Mais la Bible m'appelle aussi à avoir un regard sur moi-même. Et ce regard sur moi-même, je peux l'avoir si je m'intéresse au message biblique, si je me penche sur le message biblique, si je donne en quelque sorte du temps à Dieu pour le laisser m'enseigner sur ce que je suis. C'est pour ça que je prends la peine de la lire aussi souvent que possible, tous les jours, et de la lire entièrement avec une méthode particulière.
Oui, on en parlera tout à l'heure de la méthode, justement, puisque vous en avez une, il faut en faire profiter aussi le commun des mortels. Alors oui, donc il y a aussi une intimité, effectivement, avec la lecture de la Bible. On s'approche de Dieu, il y a une rencontre.
Il y a un apprentissage. On s'approche de Dieu et s'approcher porte la marque de l'apprentissage. Il faut qu'on apprenne à se connaître, oui. Il faut qu'on apprenne à s'apprécier, il faut qu'on apprenne à se comprendre. Et donc, dans notre méditation, il est bon qu'il y ait aussi cet apprentissage, cette venue petit à petit, où on rentre dans les choses, on y pénètre, on a du temps. Et je pense que si Dieu a permis que les premiers hommes, que Adam et Ève, fautent, pêchent, et qu'il y ait cette séparation avec Dieu, c'est peut-être pour qu'on ait du temps pour être loin de lui et venir à lui petit à petit, et puis entrer finalement dans les choses qui le concernent et qui nous concernent.
Alors, on nourrit son corps tous les jours. Sinon, ça ne va pas, on ne va pas aller loin. Donc, évidemment, on devrait avoir la même, disons, pratique, disons, pour son âme et, disons, pour sa vie spirituelle. Donc, c'est la Bible qui peut nous apporter cette nourriture. Et il est vrai que, par exemple, aussi, si on a toujours la foi, vous plantez une graine qui vous est donnée dans un pot, mais si vous ne l'arrosez pas et si vous, vous n'en prenez pas soin, elle ne va pas se développer. Et cette connaissance de la Bible, si on l'abandonne, si on ne la prend pas au sérieux, ça peut amener à rien, sinon qu'à lire quelque chose qui vous serait à la limite pour faire passer uniquement le temps. Donc pour éviter ce genre d'écueil, il faudrait peut-être avoir une méthode, et je suis sûr que vous en avez une, Guillaume, méthode pour lire la Bible.
La méthode, c'est d'une part d'avoir la version ou la traduction qu'utilise l'église dans laquelle je vais, la paroisse que je fréquente.
Oui, ça c'est la première des choses, certain. Voilà,
parce que c'est plus facile. Sinon, il y a trop de différences. Après, quand je vais à l'église, dans ma paroisse, je risque d'être surpris, de ne pas comprendre les mots, etc. Ensuite, la méthode, c'est de se placer devant le texte de manière simple. Autrement dit, je le lis, je cherche à comprendre, j'entre à l'écoute de ce texte, je me place devant le Seigneur et je, sans inquiétude, sans crispation, voilà, j'avance.
Cherchez, vous trouverez.
Voilà. Et alors le texte, eh bien, je fais trois parties à ma Bible. On pourrait dire que, en se plaçant de manière très concrète, le 1er janvier, j'ouvre à Genèse chapitre 1. Le 2 janvier, j'ouvre à Job, chapitre 1, et le 3 janvier, à Matthieu, chapitre 1. Et vous remarquez que, ici, dans ma Bible, il y a un crayon, oui, à mine très fine,
oui,
et je mets des notes, je souligne, j'encadre, je sectorise, en mettant ce que j'ai compris. Et parce que j'ai une mémoire un peu visuelle et ça me permet de dire, tiens, ben là, il y a de l'importance. Et c'est, voilà ce qu'il me semble que je dois retenir. Alors,
et chaque année, vous recommencez ?
Chaque année, je recommence, c'est-à-dire que je lis à peu près 4 pages par jour.
Oui.
Et donc, à peu près, hein, parce qu'il y a des moments où j'ai moins de temps. Et voyez ici que j'ai 3 signés et que là, on est début novembre. Alors, mon premier signé s'arrête ici au premier livre des Chroniques, autrement dit, jusqu'à la fin de l'année, qui va jusqu'à Job, il me reste, vous voyez, 300 à 374, il me reste 74 pages.
Mm-hmm.
Alors ensuite, dans le deuxième signé, mon signé s'arrête au livre du prophète Ézéchiel, et donc je suis à la page 571 dans ma version, qui va jusqu'à 656. Donc 571-656, il me reste à peu près 85 pages. Donc, vous voyez, 74 pages pour le premier signé, 85 pages pour le deuxième, et puis pour le troisième signé, alors je suis à la page 119 sur 209, donc il m'en reste 90. Donc vous voyez, si on fait la somme, 90 et 85, 175, plus 76, ça fait environ 250, et sur 60 jours, ça fait à peu près 4 pages par jour.
Alors donnez-nous un exemple pratique, qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, ce matin, je n'ai pas lu la Bible. Vous voyez, donc c'est très simple.
Oui. Hein. Vous la lirez ce soir.
C'est très simple, mais hier matin, où j'ai eu plus de temps, j'ai lu les Lamentations de Jérémie.
Oui.
Et donc,
en entier.
En entier. Vous voyez,
ici. Ça fait plus de 4 pages,
et non.
Ça.
Non. Vous voyez, regardez, ici.
Oui, les Lamentations, faut pas résumer en pages, ça dépend de l'édition, de toute façon.
2, 3 et 4.
Oui.
Avec un tout petit peu.
Mmh, oui,
bon. Voilà.
D'accord.
Hein.
Et c'est tout ce que vous avez lu ?
Et j'ai lu 4 pages.
4 pages, oui, oui.
Voilà.
Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas, excusez-moi. Vous avez dit que vous aviez partagé la Bible en 3 parties.
Voilà.
Moi, je croyais que vous lisiez 4 pages de chaque partie.
Ah
chaque
non,
fois. Parce que
sinon, ça ferait 12 pages
et
par
oui,
jour.
Et oui, ça
ferait. Et j'en lis que 4 par jour.
Ah, non, oui, d'accord.
Hein, j'en lis donc le 1er janvier, hein, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Le 1er janvier, je lis 4 pages dans la Genèse.
Oui.
Le 2 janvier, 4 pages dans Job.
Ah, voilà.
Et le 3 janvier, 4 pages dans Matthieu.
Oui. Excusez-moi, voilà. J'avais mal compris.
Et donc là, j'ai lu 4 pages dans Lamentations de Jérémie.
Mmh. Voilà. D'accord. Et puis vous reviendrez à la Genèse le 4e jour.
C'est ça.
Voilà. Oui, oui.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous avez quand même pour vous aider ? Parce qu'il ne suffit pas de lire quand même. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à aborder.
Quand on lit le texte biblique, il faut bien comprendre, en premier lieu, le sens historique, de quoi ça parle. Et par exemple, Lamentation de Jérémie, c'est Jérémie qui se lamente.
Mm-hmm.
Quand le roi Sédécias est pris, que ses enfants sont égorgés devant ses yeux, et que lui, on lui crève les yeux, et on l'amène lié de chaînes à Babylone.
Oui,
apparemment, c'est vraiment un homme double, hein, quelqu'un qui a cherché à tromper Nebuchadnezzar, alors que celui qui l'avait précédé, savoir Jéhoiakim, est resté emprisonné à Babylone, mais le successeur de Nebuchadnezzar, qui s'appelle Évil-Mérodac, Évil-Mérodac l'a traité avec bonté, et il a fait même manger à sa table, pour dire que peut-être que Jéhoiakim n'avait pas eu le même comportement que Sédécias. Donc, voir le côté historique.
Historique, c'est-à-dire, disons, le contexte, les personnages, l'histoire.
Voilà. De quoi est-ce que Jérémie se plaint-il ?
Voilà, d'accord.
Hein ? Alors, de quoi est-ce que Jérémie se plaint-il ? Jérémie, Yirmeyahou, veut dire Yahvé, ou Dieu, hein, c'est le nom de Dieu, me relèvera. Et donc, Jérémie avait un nom tout à fait prédestiné.
Oui.
Le problème, c'est qu'il n'a pas connu le relèvement. Mais il était le prophète qui disait « Rendez-vous aux Chaldéens et Yahvé, l'Éternel, vous relèvera. » Donc, Jérémie se lamente parce que lui, il vit la destruction, il vit l'abattement. Et donc, du point de vue historique, on peut lire tout l'anéantissement, la peine de cet homme qui vit finalement la destruction de Jérusalem. Alors, voilà du côté historique.
Et après, vous avez encore une autre lecture.
C'est une lecture morale.
Morale.
Alors, dans la lecture morale, on voit que, par exemple, un homme qui est fidèle à Dieu peut très bien être quelqu'un à qui les circonstances ne réussissent pas. Puisque Jérémie était quelqu'un de fidèle.
Oui.
Mais Jérémie a été dans cette ville de Jérusalem qui a été prise par Nebuchadnezzar. Et même si Nebuchadnezzar a eu des égards vis-à-vis de Jérémie, là aussi c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Puisqu'il n'a pas été... Le chef des gardes savait que Jérémie l'attendait. Donc Dieu l'en avait informé. Quelque chose d'extraordinaire. Mais Jérémie a vu sa ville détruite, rasée. Nebuchadnezzar a pris soin de détruire le temple, la maison de Salomon, les maisons fortifiées, etc. Et il est resté très peu de personnes. Et en plus de ça, ces personnes qui sont restées en Israël, elles ont assassiné Guidalia, qui était le responsable que Nebuchadnezzar avait
installé,
et elles se sont enfuies en Égypte alors que Jérémie leur disait de ne pas s'enfuir. Donc Jérémie a été un homme qui a souffert, et nous, eh bien, il peut nous arriver que dans les différents domaines dans lesquels nous sommes responsables, la famille, l'Église, la société, de voir que tout va mal. Mais à nous de faire comme Jérémie, de faire ce que Dieu nous demande. Voilà quelque chose de moral.
Voilà, deuxième possibilité.
Et on peut dire qu'avec une lecture comme celle-là, on est quand même encouragé.
Oui, non, mais de toute façon, dans la Bible, on trouve aussi des textes qui peuvent vous aider, ne serait-ce que la lecture de certains psaumes qui vous donnent de l'espérance, qui vous aident à vous relever, c'est vrai.
Et l'histoire de Jérémie me pousse à continuer comme ça, à savoir que même quand on est un homme fidèle, alors on peut très bien avoir quelque chose qui va mal se passer.
Après, la troisième étape.
Alors, une autre lecture, c'est une lecture qui va me parler de personnages importants, ce qu'on appelle la lecture typique.
Oui.
Typique. Autrement dit, Jérémie, notamment dans son chapitre 3, est peut-être celui qui va parler des souffrances du Christ. Dans des expressions très très fortes dans ses lamentations, on voit Jérémie dire « Je suis l'homme qui ai vu l'affliction. Hein? Dieu m'a conduit et amené dans les ténèbres. C'est contre moi qu'il a tout le jour tourné et retourné sa main. » Alors on peut penser effectivement que ici Jérémie nous parle de ce que Jésus-Christ a souffert dans sa vie d'homme. Hein, voilà. Une autre lecture, c'est aussi une lecture prophétique, c'est-à-dire en entendant ce qui va se passer à l'avenir. Alors, dans les lamentations de Jérémie, on ne voit pas tellement la lecture prophétique. On peut le savoir que Dieu va honorer Jérusalem, Sion, avec ses prières de Jérémie à la fin de son livre, « Fais-nous revenir à toi, ô Éternel », ou bien « Nous aurais-tu entièrement rejeté, serais-tu extrêmement courroucé contre nous ?» Eh bien là, on sait que non. Il y a d'autres livres qui nous parlent de ce retour d'Israël. Et donc, on est aussi nourri dans cette lecture prophétique des choses qui vont arriver. Mais les Lamentations de Jérémie ne sont pas typiquement un livre prophétique. On a des livres prophétiques avec, par exemple, Zacharie, un livre terriblement prophétique, ou Daniel, par exemple, ou l'histoire de Joseph, qui est une histoire qui certainement montre ce que Jésus-Christ sera en tant que roi des nations quand il viendra dans son royaume.
Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de la lire, mais il faut aussi en vivre.
Voilà. Ça, c'est très important ce qu'on vient de dire. Autrement dit, quelqu'un qui ne met pas en pratique ce qu'il a compris de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est un peu misérable. Jacques, par exemple, dans sa lettre, nous dit « Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, car quelqu'un qui ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui a considéré sa face naturelle dans un miroir et s'en est allé ayant oublié aussitôt qu'elle y était. » Et donc, il nous exhorte à la mettre en pratique. Pierre, par exemple, dans sa deuxième lettre, nous dit que si on ne la met pas en pratique, eh bien, on ne peut pas progresser à la connaissance de Jésus-Christ.
Donc, Jacques et Pierre savaient très bien qu'il y avait ce danger, effectivement, de ne pas la mettre en pratique.
Voilà.
Et donc, ça peut évidemment arriver à tout le monde.
Et oui, et à moi le premier.
Oui.
À moi le premier.
Donc, en fait, cette parole de Dieu, il faut l'entendre, hein, il faut vouloir la découvrir, il faut la comprendre, en sachant toujours quand même qu'il y a l'esprit qui intervient, hein,
voilà,
pour nous aider. Hein.
Tout à l'heure, vous avez parlé de manger,
oui,
hein, de nourrir son corps, et moi, je mange de tout. Je veux lire toute la parole de Dieu, y compris l'Apocalypse, y compris le livre des Chroniques, qui sont des livres difficile, ou le livre de Zacharie. Il faut entendre, se placer devant Dieu, et puis Dieu nous fera comprendre ce qu'on aura à comprendre.
Alors je vais prendre une image un peu simplette, un peu simpliste, c'est que quand on mange, hein, puisqu'on dit que bon, on va, disons, l'entendre, la comprendre, il va falloir ensuite, ça va donner des forces
et
quand
voilà,
on mange. Donc en fait, il faut transmettre, peut-être aussi, c'est un devoir aussi de la transmettre, peut-être, cette parole de Dieu.
C'est ça, hein, de la faire connaître.
De la faire connaître, effectivement. Et puis, donc, évidemment, de la mettre en pratique tous les jours.
Et aujourd'hui, où la Bible coûte 1,50 €,
oui,
on peut dire qu'elle est à disposition de tous. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut peut-être y rentrer progressivement, savoir ne pas être découragé, pouvoir ne pas être découragé par ce livre qui est quand même difficile à comprendre parce que il demande des connaissances qui sont assez indispensables pour avoir un regard général sur la Bible et ne pas être perdu.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il faut avoir aussi, disons, au point de vue historique, il faut suivre ce déroulement de dynastie, de roi, et ainsi de suite. Alors, on reproche souvent aussi la violence dans la Bible, alors qu'en fait, il faudrait qu'on n'y trouve qu'un message d'amour.
Dans la violence est présente dans l'Ancien Testament, elle marque la conquête de cette terre d'Israël, hein, Canaan. Et je précise quand même à cet égard que Canaan était la terre destinée à Israël. Et
Oui.
donc, les peuples, les pays avaient chacun sa terre. Édom était à la montagne de Séir, Moab, Ammon était en Transjordanie. Et en fait, les peuples qui étaient en Canaan ne devaient pas rester en Canaan. Et donc, si Dieu demandait qu'il n'y ait que les enfants d'Abraham qui sont en Canaan, c'est parce que dans son pays, il ne voulait pas d'idolâtrie. Il ne voulait pas de personnes qui rendent des cultes au soleil ou à des démons, des personnes qui sacrifient leurs enfants, des personnes qui fassent des choses, qui consultent les esprits, par exemple. Et donc il voulait il n'y ait, que soit les étrangers qui étaient là soient circoncis et participent à la Pâque, autrement dit, soit dans cette relation tout à fait claire avec Dieu, ou alors aillent ailleurs. C'est pour ça que si on lit l'Ancien Testament de cette manière, alors on comprend que ce n'est pas de la violence, mais que c'est voilà, une volonté de Dieu que son peuple le représente vraiment. Mais on peut dire aussi que David, par exemple, qui a été un homme de guerre, est allé plus loin que ce que Dieu voulait en faisant tuer des victimes de guerre de manière excessive.
Oui, en fait, David était aussi un homme.
Oui, il était un homme avec ses excès, avec tout ce qu'il fallait.
Alors avant de conclure, quand même, il y a une question qu'on ne peut pas éviter, c'est qu'on accuse aussi la Bible de dire tout et parfois n'importe quoi, qu'il y a des contradictions d'un passage à l'autre. Ce qui est dit par exemple dans le Lévitique, parfois, est un peu surprenant pour un lecteur d'aujourd'hui. Si vous lisez par exemple au Lévitique, disons, un chapitre qui concerne effectivement que vous souhaitez vendre votre fille comme servante, je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut pas aller. Que vous pouvez prendre des esclaves, bon, ça s'explique mieux, c'est plus notre civilisation, enfin, tout au moins en Europe. Mais ainsi de suite, il y a plusieurs versets qui vont à l'encontre quand même de notre message qui est peut-être dit ailleurs.
On peut ne pas voir ces passages comme contradictoires, dans la mesure où la loi nationale pour le pays d'Israël qui a été donnée par Moïse vers 1400 était une loi qui était nécessaire à ce moment-là.
Voilà,
Hein? Et
oui.
donc là, on entend qu'aujourd'hui, on a des lois qui sont nécessaires dans le pays dans lequel nous vivons, et nos lois transigent, on ne peut pas vendre sa fille aujourd'hui. Hein?
Non, je
Et on
pense
ne peut pas non plus
pas.
être polygame, ou etc. Hein? Aujourd'hui, du temps d'Israël, par exemple, à l'époque de Moïse, c'était le beau-frère qui devait prendre soin ou charge de sa belle-sœur veuve.
Qui était veuve, oui, en
Et
effet.
donc, il fallait qu'il la prenne comme femme. Donc, la polygamie était quelque chose de pratiqué.
Voilà, oui.
Mais c'était une polygamie sociale. Et aujourd'hui, le mariage polygame est interdit, la polygamie est interdite, et par contre, il y a des allocations monoparentales ou d'autres choses.
Pour aider les personnes
Donc,
seules.
il
Non,
faut
c'est
vraiment
des.
lire la Bible comme quelque chose d'actuel et avoir un peu de recul sur tout cela, bien sûr.
Les premiers textes, donc, en fait, c'était des textes aussi de circonstances.
Absolument.
Bon, enfin, il y a un message plus important, la parole de Dieu est quand même amour, et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter.
Voilà une parole qui nous montre à quel point Dieu nous aime et comment Dieu a fait toutes choses pour que nous soyons définitivement dans sa main. charge de sa belle-sœur veuve.
Qui était veuve, oui, en effet.
Et donc, il fallait qu'il la prenne comme femme. Donc, la polygamie était quelque chose de pratiqué.
Voilà.
Mais oui. C'était une polygamie sociale. Et aujourd'hui, le mariage polygame est interdit, la polygamie est interdite, et par contre, il y a des allocations monoparentales ou d'autres choses.
Pour aider les personnes
seules. Donc, il faut vraiment lire la Bible comme quelque chose d'actuel et avoir un peu de recul sur tout cela, bien sûr.
Les premiers textes, donc, en fait, c'était des textes aussi de circonstances.
Absolument.
Bon, enfin, il y a un message plus important, la parole de Dieu est quand même amour, et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter.
Voilà, une parole qui nous montre à quel point Dieu nous aime et comment Dieu a fait toutes choses pour que nous soyons définitivement dans sa main.